C'est la fin du week-end, on est dimanche, il est 20h et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris sur le 93.9 FM et en streaming. Et tout de suite, c'est Museum Side, en avant pour un tour du côté des musées.
On commence avec le mot du conte de Lautréamont. Bon, comme la rencontre fortuite d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table de dissection.
Museum Side.
Vous avez tenté de faire quelque chose qui n'est en aucune façon un palais, en aucune façon un lieu de décor, et disons-le tout de suite, en aucune façon un musée.
Museum Side, c'est l'émission de critique d'art de Radio Campus Paris.
Vassily Kandinsky est exposé au troisième étage à côté de Malevitch, comme il se doit.
Ceci n'est pas un musée.
Ah, donc si je trouve Malevitch, pour Kandinsky, je brûle.
On parlera d'exposition d'art.
Ce qui donne un art à une société, dit André Gide, c'est le besoin qu'elle en a, et non une compréhension plus ou moins grande.
On va se balader dans Paris, de musée en musée, toujours en compagnie d'un invité. On est ravis ce soir de vous retrouver pour cette troisième saison de Museum Side. Déjà, le principe reste le même. Une fois par mois, le dimanche à 20h, on vous emmène parcourir la capitale pour dénicher pour vous les expositions du moment qui valent le coup d'œil. En première partie, on décrypte une grande expo parisienne en compagnie d'un des artistes ou du commissaire. Et en deuxième partie, on analyse tous ensemble une deuxième expo en débattant, en critiquant, en admirant, mais surtout en vous expliquant son propos. J'ai bien dit, on analyse tous parce que cette année, on accueille un homme dans l'équipe, Boris. Marie-Hélène, Charlotte et notre réalisateur Louis-Julien ont quitté le navire. On accueille à la place deux nouvelles têtes, Marie, ici présente. Salut Marie.
Salut.
Et Enora, que vous retrouverez le mois prochain. Et bien sûr, je n'oublie pas Galadriel, qui va, comme l'année dernière, vous faire rêver avec ses chroniques, ses coups de cœur et ses coups de gueule. Salut Galadriel.
Salut.
Alors, petit tour de table pour vous les présenter. Boris, toi, tu fais quoi dans la vie et ça va être quoi ta spécialité dans l'émission ?
Donc moi je suis photographe, après des études en arts visuels et médiatiques et notamment en photographie, j'en fais aujourd'hui mon métier. Ma spécialité donc, pour cette émission, ça va être de vous partager mes coups de cœur et mes coups d'œil, surtout en photographie, et vous faire partager mon amour pour l'art.
Super, on a hâte. Marie, toi tu travailles dans le marché de l'art.
Oui, tout à fait. Je suis assistante dans une galerie d'art de la table ancien. Mais avant, j'avais travaillé au Puce et dans une galerie d'art asiatique ancien, chinois et japonais.
Donc toi, ta spécialité, c'est plus tout ce qui est pays du milieu.
Oui, complètement.
Très bien. Donc Enora, que vous découvrirez le mois prochain, est-elle spécialisée dans l'archéologie ? Et je finis mon tour avec Galadriel. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier ?
Oui, alors moi je suis guide conférencière et médiatrice culturelle. À ce titre, je travaille dans de divers lieux de la capitale. Le musée du Louvre, l'Opéra Garnier, le Grand Palais, le Petit Palais, la Fondation Louis Vuitton, le musée d'Orsay et bien d'autres encore, là où on a besoin de moi pour mes explications.
Chouette, très bien. Alors, ce soir, le programme pour la première de Museum Side, je vous propose de visiter l'exposition Sigmund Freud du regard à l'écoute, qui vient d'ouvrir ses portes au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris et qui est à voir jusqu'au 10 février. J'ai eu le plaisir de la découvrir en compagnie de Paul Salmona, le conservateur en chef et directeur du musée. En deuxième partie, focus sur les deux expositions du moment, Egon Schiele et Jean-Michel Basquiat, à voir jusqu'au 14 janvier à la Fondation Louis Vuitton. Mais on commence tout de suite par ta chronique, Galadriel. De quoi tu nous parles ce soir ?
Alors, c'est encore une de mes expériences en tant que médiatrice. Je vous en ai déjà fait part à plusieurs occasions au cours de l'année dernière. Pour le musée du Louvre, j'interviens à l'extérieur, donc hors les murs du musée, avec le service de démocratisation culturelle et je me rends auprès des publics dits empêchés, c'est-à-dire des publics dont la sphère culturelle est très loin de la culture et des musées et qu'ils considèrent malheureusement comme étant élitistes et où ils ne se sentent pas à leur place. Et ma mission, c'est donc leur démontrer le contraire. Et qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait un bac plus 3 en histoire de l'art pour être capable et surtout pour avoir le droit de parler des œuvres que l'on voit. Car après tout, on a tous des yeux et des opinions. Alors je en parle aujourd'hui car j'ai eu l'occasion dernièrement d'aller vers un nouveau style de public. Je suis intervenue dans un centre éducatif fermé. C'est une structure alternative à la prison pour des mineurs multirécidivistes. Je me suis retrouvée avec 6 jeunes de 16-17 ans, pas très emballés à l'idée de parler d'œuvres d'art pendant une heure. Mais la première séance était une discussion autour d'une thématique, le portrait. J'ai apporté avec moi des reproductions de différents types de portraits et autoportraits du musée du Louvre et ils devaient simplement me donner leurs impressions sur les personnes représentées. Alors ils ont vite saisi que Dürer, avec son portrait de l'artiste tenant un chardon, s'était, je cite, « fait beau gosse » pour plaire à sa fiancée ou que Nicolas Poussin avait l'air sévère et très sérieux dans son autoportrait de 1650. La discussion s'est achevée avec une réaction très vive à l'encontre du portrait d'une femme noire de Marie-Guillaumine Benoît quand ils ont découvert le titre que portait le tableau en 1800, « Portrait d'une négresse », ce qu'ils ont considéré bien évidemment comme impardonnable et faisant preuve d'un manque total de respect. En tout cas, cette première séance les a fait réagir et a été l'occasion de parler des conventions sociales, de quelle image on veut donner de soi, à l'ère des selfies c'est intéressant, et de la place des minorités dans notre société. Pas mal pour des portraits vieux d'au moins 200 ans. La deuxième séance était une activité plastique, leur faire découvrir la technique de la gravure en gravant le portrait d'un proche et en le mélangeant avec des détails d'œuvres du Louvre. Leurs proches se sont transformés en rappeurs et footballeurs, mais tous ont joué le jeu et nous ont proposé de très belles compositions dans une activité qui demandait beaucoup de concentration et de minutie. Par exemple, l'un de ces rappeurs s'est retrouvé avec, sur les vêtements, des détails copiés d'un baptistère en métal martelé du XIVe siècle. C'était très réussi. Et enfin, le succès était total quand pour la troisième et dernière séance, ils sont venus au musée du Louvre. Nous avons commencé la visite par le visionnage du clip de Beyoncé et Jay-Z, Ape Shit, tourné au Louvre il y a quelques mois. Et nous sommes ensuite allés voir les œuvres présentes dans le clip. Alors les grands classiques comme la Victoire de Samothrace, le Radeau de la Méduse ou la Joconde. Il y avait toujours un ou deux participants pour analyser pourquoi le couple Carter avait choisi cette œuvre pour chanter et danser devant. Et la cerise sur le gâteau de ses premiers pas de réappropriation culturelle, c'est quand à la fin de la visite, ils ont voulu continuer encore un peu en disant « Maintenant, c'est nous qui allons vous faire la visite ».
Merci Galadriel. Direction maintenant le musée d'art et d'histoire du judaïsme pour visiter l'exposition Sigmund Freud du regard à l'écoute qui vient d'ouvrir au musée d'art et d'histoire du judaïsme.
Ce qui me fait rire, c'est que Freud, on a tous l'impression de connaître Freud. Ah, Freud, c'est la psychanalyse, le rêve. Mais en fait, on le connaît très mal. On ne le connaît pas vraiment. Alors du coup, quelle vision Jean-Claire a voulu montrer dans cette exposition qui s'intitule « Du regard à l'écoute » ?
Comme le titre l'indique, en fait, il y a l'idée de passer d'un monde de Freud, qui est un monde absolument peuplé d'images, à ce qui a été la clinique psychanalytique et même un certain retour de Freud sur le judaïsme dans un monde où l'écoute est privilégiée. On sait que l'analysant, le psychanalyste écoute l'analysant sur le divan et que l'analysant peut librement associer et s'exprimer dans ce qui peut être une forme de demi-sommeil où la parole peut libérer l'expression de traumatismes qui sont restés dans l'inconscient, pour dire les choses très très vite et un peu maladroitement. Et donc l'exposition, et alors ça c'est une première chose, une deuxième idée forte, c'était de montrer que Freud est un homme du 19e siècle venant d'une famille juive très imprégnée par les Lumières et ce qu'on a appelé la Haskalah, c'est-à-dire l'influence des Lumières européennes dans le judaïsme, qui a été très forte, hein, et que c'est un scientifique, hein, qui a d'abord et avant tout une formation scientifique, de biologiste, de neurobiologiste, avant, tardivement, à la maturité, d'élaborer l'ensemble de l'appareil théorique de la psychanalyse et de sa clinique, hein, qu'il inventera petit à petit, hein, d'une certaine manière, sur le tas. Et puis, il y a un troisième aspect qui, évidemment, nous intéressait ici, c'était de faire émerger, sans trahir Freud pour autant, le fait que Freud est imprégné de ce judaïsme et que ça a probablement eu des effets, hein, dans sa pensée, enfin ça a eu des effets dans sa pensée, et en même temps en respectant le fait que Freud a été très vigilant quant à ce qu'on ne catégorise pas la psychanalyse comme une, entre guillemets, science juive, hein. à la fois parce qu'il voulait en faire une science de plein droit, en quelque sorte, hein, la science de la psyché et de l'inconscient, et puis parce qu'il voulait que la psychanalyse puisse avoir une pérennité dans un monde où l'antisémitisme était assez présent. Hein.
Oui, parce que d'ailleurs, dans la dernière partie, où vous traitez donc de la question juive et de l'origine juive de Freud, il y a une citation qui est, donc il dit qu'il peut soulever la question, dans la revue juive, de savoir si sa qualité de juif n'a pas été pour une part dans l'antipathie générale contre la psychanalyse. Je trouvais ça intéressant. Bon, c'est une question qui soulève comme ça dans un numéro de la revue juive, mais...
Oui, mais il a...
Est-ce que ça a joué ?
Bien sûr, oui. Il y a des tas d'attestations d'un refus de la psychanalyse au motif qu'elle serait une invention juive. Hein. C'est une chose qui est restée tardivement. D'ailleurs, Freud, d'une certaine manière, apparaît comme un archétype du savant juif, hein, au même titre qu'Einstein, où on cite souvent... Marx, Freud et Einstein comme entre guillemets avec tout ce que ça peut comporter de connotations très ambiguës comme des génies juifs hein, voilà. Et ce qu'on a cherché avec Jean-Pierre au contraire c'était de le resituer dans un 19e siècle où il est profondément tributaire des savants auprès desquels il a travaillé, de Darwin, hein, il est très très pétri de la théorie de l'évolution. Il est aussi pétri d'un savant allemand qu'on connaît moins en France que Darwin, qui est un émule de Darwin, s'appelle Ernst Haeckel, qui est lui aussi un grand évolutionniste, hein, et qui montre comment l'évolution, et ça a été probablement séminal pour Freud, très inspirant en tout cas, comment l'évolution de l'individu, hein, du dédoublement de la première cellule de l'embryon jusqu'à la maturité, récapitule toute l'évolution de l'espèce. Hein. Au fond, l'embryon dans le liquide amniotique, c'est comme un petit organisme marin, comme une amibe ou comme un de ces premiers organismes qui sont apparus sur la Terre. Et l'embryon va évoluer dans toutes les formes qui sont d'ailleurs pratiquement communes à tous les organismes. Et ça va être inspirant pour lui dans l'idée qu'on peut revenir sur les traumatismes enfantins, refaire tout ce parcours et soigner la névrose de cette manière-là.
Alors comment faire pour qu'une exposition comme ça soit pas trop encyclopédique et qu'il y ait un aspect quand même beaux-arts aussi ? Parce que donc on voit, c'est intéressant, on voit dans l'exposition que Freud était aussi collectionneur, donc il y a aussi ce biais-là, mais comment on fait
Comment on fait ? Alors,
pour présenter au grand public.
Une exposition comme celle-là, c'est une exposition très composite d'archives, de dispositifs scientifiques, de documents et d'œuvres. Et il y a tout ça à la fois, et c'est un peu ce qui fait la singularité des expositions de Jean-Claire. On a encore en tête Vienne, l'Apocalypse joyeuse, L'âme au corps, Art et science... ou bien Mélancolie, génie et folie en Occident, c'est un peu une exposition de la même eau, c'est-à-dire qu'il y a une association comme ça très très, très, très subtile entre tous ces registres. L'exposition débute par un immense tableau qui est le plus grand tableau qu'on ait jamais fait rentrer au musée d'art et histoire du judaïsme, qui est la leçon de... Oui, absolument. Il a fallu évidemment le pencher pour passer les portes en diagonale. Qui est la leçon de Charcot à la Salpêtrière. Alors c'est un tableau très important parce qu'on sait que Freud est venu écouter les leçons de Charcot, hein. Il a connu Charcot assez intimement. Et puis il y a en même temps dans cette première salle des dispositifs scientifiques, de ces dispositifs qu'on a inventés à la fin du 18e, au début du 19e pour essayer de comprendre ce que sont les influx nerveux et ce qu'est matériellement, physiologiquement la psyché. Hein. Donc il y a le baquet de Mesmer, il y a toute une série de dispositifs. Il y a aussi, et ça c'est fascinant, des dessins autographes de Freud qui analysent de manière extrêmement, enfin qui étudient au microscope de manière extrêmement précise l'anatomie du système nerveux de la lamproie, hein, ou de l'anguille. Donc là, on est dans quelque chose de très précis, qui est cette science naturelle qui s'élabore au 19e siècle. Et puis, on est dans les prémices de enfin, pas seulement les prémices, parce que la leçon de Charcot est précisément sur l'hystérie, dans toute cette iconographie extrêmement abondante qui, au XIXe siècle, est produite sur l'hystérie. Que ce soit les dessins de Paul Richer, qui est un assistant de Charcot, et qui, pendant les séances, d'ailleurs, on le voit dans le tableau en train de dessiner, et on montre dans la salle suivante les dessins, et c'est un très grand dessinateur, hein, les dessins sont très beaux, et en même temps c'est extrêmement intéressant, parce qu'il y a notamment un dessin où on voit toute la classification des différentes formes d'hystérie, avec les phases successives de cette hystérie féminine, dans de tout petits dessins qui ont quelque chose du flipbook, hein, d'une certaine manière, et différentes formes, donc ça, en abscisse et en ordonnée, hein, différentes formes de chaque phase, enfin c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et c'est plastiquement de très très beaux dessins, et ça donne une idée assez précise de cette fascination qu'on a au XIXe siècle pour cette hystérie féminine. On a tendance à privilégier l'hystérie féminine pour un certain nombre de raisons, alors qu'on sait aussi que ça concerne les hommes. Et puis en même temps, on montre toute une série de peintures qui sont emblématiques de ces représentations de la folie au XIXe. Il y a une fiancée de Lammermoor, d'après Walter Scott, qui va donner Lucia di Lammermoor de Donizetti par un très beau tableau d'Émile Signol. Il y a toute une série de représentations dessinées, photographiées, peintes, qui nous restituent ce contexte de l'intérêt du XIXe pour l'hystérie.
Et donc Jean-Claire a choisi aussi de présenter l'origine du monde de Courbet. Je l'avais vu aussi sur les affiches, etc. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il a appartenu à Jacques Lacan.
Absolument.
Mais je trouvais que ça arrivait dans le parcours un peu... Pourquoi ?
Pour
aborder la partie sur la sexualité, c'est
bien
vrai.
Sûr, mais... Bien sûr, bien sûr. La théorie de la sexualité chez Freud, c'est très fondamental. Et il se trouve que c'est un tableau qui est quasiment contemporain à 10 ans près de Freud. Hein. Freud est en 56, le tableau est de 66. Et c'est l'un des premiers tableaux qui soit une représentation anatomique du corps féminin sans être une image pornographique, en fait. Hein. Comme il s'en produisait beaucoup depuis le XVIIIe siècle, la littérature libertine est illustrée de gravures cochonnes. Hein. Ça fait partie d'une iconographie bien connue, un peu sous le manteau. Là, c'est pas du tout le cas. Alors c'est un tableau de boudoir, hein. Il est commandé pour Khalil Bey pour son boudoir, et il est caché chez Khalil Bey derrière un rideau vert, semble-t-il. Mais il y a une forme de parallélisme entre cet abord très clinique, on pourrait dire, hein, chez Courbet, de ce sexe féminin, et chez Freud, de l'importance de la sexualité dans la formation de l'individu, chez le petit enfant, ce qui a énormément choqué à l'époque. Hein. Et donc il y a une forme d'analogie, si vous voulez, picturale entre cette œuvre de Courbet et l'élaboration de la théorie de la sexualité chez Freud. Et puis en dehors de ça, évidemment, c'est un tableau qui a une grande importance dans l'histoire de la psychanalyse, puisque vous le disiez, son dernier propriétaire est Jacques Lacan. Jacques Lacan commande à son beau-frère André Masson, grand peintre surréaliste, un tableau panneau qui a pour vocation de cacher le tableau de Courbet chez lui. On montre dans l'exposition, et je crois que c'est la première fois que c'est fait, les deux tableaux, non pas tout à fait côte à côte, mais assez proches l'un de l'autre. Et on montre également une photo où on voit une main, qui est peut-être celle de Lacan, qui dévoile le tableau de Courbet derrière le panneau de Masson. Et dernière chose qui fait résonner ce tableau dans l'histoire de l'influence de la psychanalyse dans les arts, c'est un tableau qui a appartenu à Lacan. Lacan était le mari de Sylvia Bataille, première femme de Georges Bataille, écrivain surréaliste, et on sait, l'exposition le montre très bien, que ce sont les surréalistes qui ont introduit la psychanalyse en France, et les surréalistes s'intéressaient beaucoup à un des pivots de la clinique psychanalytique, qui est la libre association, hein, qui va donner l'écriture automatique dans le surréalisme, les cadavres exquis, etc. Et d'ailleurs, on montre aussi toute une série de revues surréalistes, et on se souvient que Breton, à la fin de Nadjar, dit « la beauté sera convulsive ou ne sera pas », et ce qui est évidemment une référence à ces postures convulsées des hystériques telles qu'on les voit dans le tableau de Brouillet, la leçon de Charcot, hein, puisque Charcot tient cette hystérique, enfin c'est Babinski en fait qui la tient derrière Charcot, et on monte d'ailleurs à côté une reproduction, enfin une photo d'un tableau perdu de Klimt à Vienne, oui, qui représente la médecine, et où il y a en haut à gauche du tableau une femme convulsée, dont le centre de gravité est vraiment le sexe quasiment ouvert, enfin pas ouvert, mais disons courbé, hein, dans cette espèce de courbe de du corps, et qui est malheureusement perdu. Enfin, il y en a une esquisse peinte au musée d'Israël, mais on n'a malheureusement pas pu la voir.
Oui, je me demandais pourquoi il est perdu, l'original est perdu.
Alors, par ailleurs, il y a énormément de représentations, disons que cette iconographie de l'hystérique et de la femme cabrée, on pourrait dire, enfin cambrée, hein, plutôt que cambrée, a eu une très très forte influence dans l'histoire de la peinture. Il y a un autre tableau de Segantini qu'on n'a pas pu avoir, qui représente la mauvaise mère, où on a une femme qui vient de se faire avorter et qui était avec un embryon qui traîne dans le champ à côté. C'est un tableau terrible, hein, qui est à Zurich, et où elle a exactement la même posture, hein. Et on en retrouve des tas d'exemples dans l'histoire de la peinture.
Et c'est intéressant, du coup, par rapport aux surréalistes, je ne savais pas que Freud, à un moment, on le voit dans l'exposition, dit qu'il ne comprend pas trop, dans une lettre, je crois, à André Breton, il dit que finalement, il ne comprend pas trop ce que font les surréalistes.
Oui, alors, en effet, c'est d'ailleurs intéressant, et c'est probablement pas le seul cas de quiproquo entre un théoricien et des artistes, des plasticiens. Breton est fasciné par Freud, il va le voir, il revient en disant qu'il n'en a absolument rien retiré, il n'a même pas de quoi écrire un article, et de son côté, Freud ne se retrouve pas du tout dans ce que produisent les surréalistes, mais ça va quand même être très fondamental pour les surréalistes. Donc on est dans un malentendu, mais au fond, peu importe. Et d'ailleurs, la salle consacrée aux surréalistes avec... Il y a un très beau tableau de Quirico, le viol de Magritte, un magnifique dessin d'Artaud, et un tableau vraiment iconique de Salvador Dali qui dit littéralement « Parfois j'aime à cracher sur le portrait de ma mère », je cite de mémoire, mais je crois que c'est bien ça, qui est évidemment une salle magnifique en réalité. Hein. C'est-à-dire qu'on assume le fait qu'il y a eu un malentendu, mais il n'empêche que ça va produire dans l'histoire de l'art de la première moitié du XXe siècle un ensemble d'œuvres qui sont des œuvres très importantes.
Et le dernier tableau, donc, c'est un Rothko, pour la dimension un peu spirituelle des Rothkos.
Tout à fait. Alors, c'est un Rothko en présence du Moïse de Michel-Ange. Oui. Ils sont indissociables. D'ailleurs, dans un premier temps, on avait pensé les mettre face à face. Mmh. Et finalement, on les a mis dans la perspective l'un de l'autre. Et je pense que c'est une confrontation qui ne se reproduira jamais, parce que ce moulage du Moïse de Michel-Ange pour le tombeau du pape Jules II dans l'église Saint-Pierre-Olien à Rome, et qui est conservé à l'école des Beaux-Arts, peut difficilement voyager, ressortir. Et donc ils sont côte à côte, et on a, alors on a deux états en quelque sorte, hein, de la réflexion de Freud. Un premier état où Freud s'intéresse énormément à l'histoire de l'art et aux images, et il va faire d'ailleurs une analyse d'historien d'art extrêmement intéressante de cette sculpture de Michel-Ange qui est célébrissime, hein, où il montre bien comment Moïse contient sa colère et ne brise pas les tables de la loi, les retient malgré sa colère. Donc on voit ce visage extrêmement renfrogné, et en même temps les tables sont encore sous la main, alors que les Israélites se sont mis à... Alors qu'il redescend du Sinaï, les Israélites se sont mis à adorer le veau d'or, ce qui est d'ailleurs peut-être une analogie, une métaphore de la colère rentrée de Freud à l'égard de Jung, qui est son disciple et qui le trahit. Bon, hypothèse. Et donc là, c'est un intérêt de Freud extrêmement poussé pour les images. Il va évoluer ensuite vers un intérêt pour l'histoire de Moïse, puisque donc cet article date de 14 dans la revue Imago, et le dernier ouvrage de Freud, L'homme Moïse et la religion monothéiste, qui a été traduit dans un premier temps par Moïse et le monothéisme, et le dernier ouvrage de Freud, et là c'est sur la personne proprement dite de Moïse et son statut, son origine égyptienne. Enfin, je ne refais pas toute l'hypothèse, ça occuperait toute l'émission, hein. Mais effectivement, c'est sur ce retour de Moïse vers le judaïsme qui est d'une forme d'intérêt pour l'écoute dans la psychanalyse et pour le texte chez Freud. Effectivement, c'est symbolique, hein. Mmh. Chez Rothko, qui était évidemment passionné par les textes de la Bible et du Talmud, et qui était aussi passionné par la psychanalyse. Et donc on est dans une espèce d'image silencieuse, d'image muette, et en même temps d'image très profonde, qui peut se regarder comme un jeu chromatique prodigieux, si on ne sait rien sur elle, ou qui peut se regarder comme une méditation juive, si on en connaît la genèse chez Rothko, qui était un peintre américain, juif russe d'origine, si vous voulez. Alors, dans cette même salle, d'ailleurs, il y a aussi la Bible, que Freud, dans laquelle Freud a appris à lire l'hébreu et l'allemand, et dans laquelle il y a une magnifique dédicace de son père en hébreu, qui est un monument d'amour paternel.
Peut-être pour finir, dernière question, ce serait comment, ou peut-être il n'y a pas d'explication, mais comment vous expliquez que ce soit la première exposition sur Freud en France ? Ça m'a quand même marqué. Si je ne me trompe pas, c'est bien ce qui est marqué au début de l'exposition.
Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il faut, je crois honnêtement qu'il faut le talent d'un Jean Clair pour arriver à faire autre chose qu'une expo panneau, d'une expo de texte sur les murs, pour illustrer une figure aussi riche, aussi complexe, parce que c'est à la fois l'inventeur de la psychanalyse d'un point de vue clinique, c'est le producteur d'un ensemble de textes théoriques absolument phénoménaux, hein. On est stupéfait à la librairie quand on étale tout ce qu'on a fait, tout ce qui est disponible en français, c'était absolument considérable. Ça ne concerne pas d'ailleurs que la théorie psychanalytique, ça concerne aussi la civilisation d'une manière générale, hein, et l'art. On l'a dit pour Moïse. Ce qui nous intéresse, c'est de montrer comment le judaïsme résonne dans la culture occidentale ou dans la culture universelle. D'ailleurs, je pense qu'on peut dire la culture universelle à travers des tas de manifestations ou d'imprégnations diverses qui peuvent concerner chacun, juif ou non juif, évidemment.
Merci beaucoup, Paul Salmona. Ce sera donc le mot de la fin. Merci.
Merci à vous.
Pour sa nouvelle exposition de la rentrée, la Fondation Louis Vuitton a choisi de croiser le destin de deux artistes, a priori très différents. Le premier, Egon Schiele, est né en 1890 à Tulle an der Donau, en Autriche, et mort à seulement 28 ans de la grippe espagnole en 1918. C'est un des éminents représentants avec Gustav Klimt de la Sécession viennoise, un mouvement artistique de la fin du 19e siècle apparenté à l'art nouveau et à l'art ornemental du Jugendstil. On y reviendra évidemment. Il a réalisé énormément de dessins pendant sa courte carrière et on en voit quelques beaux spécimens à la Fondation. Pour la première exposition de l'artiste depuis 25 ans à Paris, une centaine d'œuvres sont réunies dans le sous-sol du musée à l'occasion du centenaire de l'anniversaire de sa mort cette année. Jean-Michel Basquiat, lui, est né en 1960 à Brooklyn et mort également à 28 ans, mais pas pour les mêmes raisons. Il est mort d'une overdose un an après Andy Warhol. Il appartient, lui, au milieu underground new-yorkais des années 70. Il fréquente Warhol, donc, et va d'ailleurs peindre avec lui. Il se fait connaître dans le métro avec ses premiers graffitis. Il a énormément produit l'exposition réunit plus de 120 œuvres de grand format. Vous en reconnaîtrez peut-être certaines d'ailleurs, aperçues dans la dernière exposition sur Basquiat au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris fin 2010.
Alors finalement, pertinent ou pas ce lien entre les deux, entre Schiele et Basquiat? Boris, alors je sais qu'on a vu l'exposition tous les deux, donc en plus on s'est fait nos propres remarques sur l'exposition. Il y a des choses intéressantes qu'on s'est dit. Toi, t'en as pensé quoi du coup sur ce lien d'abord entre Schiele et Basquiat?
Non pertinent. Non pertinent, pourquoi ? Parce que pendant l'exposition, je cherche sans cesse des liens. Toute la programmation est axée sur ces deux artistes-là, donc c'est pas pertinent de les mettre ensemble. On cherche, enfin moi du moins, j'ai cherché vraiment les liaisons entre les deux. Alors après, oui, on trouve des similitudes par rapport à leur torture, par rapport à un coup de crayon, mais c'est vrai que pendant toute l'exposition, il y a ce lien-là qui m'a hanté. Et finalement, j'ai pas vraiment trouvé de réponse. Alors après, il est sans cesse intéressant de comparer deux artistes. On trouve nécessairement des similitudes, des champs de recherche annexes. Mais là, pour le coup, j'avoue que je comprends pas pourquoi ils ont voulu faire cette exposition de deux grands artistes en même temps.
Galadriel, alors, t'en penses quoi de ce lien entre les deux artistes ?
Alors attention, parce que les deux expositions n'ont pas été prévues pour dialoguer vraiment ensemble. Hein. Les deux D'accord. artistes sont bien séparés et l'idée, ce n'est pas de faire un comparatif entre ces deux œuvres.
Oui, mais elles sont quand même, les deux affiches sont conjointes. Enfin, moi je vois Schiele et Basquiat.
C'est vrai, et puis en fait, les deux expositions ouvrent et s'achèvent exactement au même moment à la Fondation, partagent les galeries, l'espace global de l'exposition. Mais alors, l'opportunité de les réunir cette année, c'était ça aussi, hein, était trop belle. Effectivement, comme tu l'as dit, on célèbre le centenaire de la mort de Schiele, 30 ans aussi de la mort de Basquiat, qui, attention, c'est très important, il mourra 27 ans, il n'avait pas encore 28. Il fait donc partie du club des 27. Attention, ça a beaucoup d'importance.
Ça nous fait peur, nous, parce qu'on est dans le club aussi. Enfin, non, on n'est pas dans le club parce qu'on n'est pas morte, mais...
Bah, Non, attention, pas encore. On a encore quelques mois devant nous avant de passer la barre des 28. Espérons qu'on tienne le coup. Touchons du bois. Donc voilà, l'occasion était vraiment très belle de les réunir. Après, ce qu'on peut trouver de commun entre ces deux artistes, c'est que tous les deux se développent dans un contexte culturel extrêmement riche, que ce soit la Vienne du début du XXe siècle ou le New York des années 70-80. Donc culturellement, artistiquement, il y avait énormément de choses qui se faisaient. Et en même temps, dans deux villes, New York, c'était en ruine. Vraiment, les années 70, il y a eu une grosse crise économique. Donc, commence à peine à se reconstruire au début des années 80. Vienne était très conservateur et en même temps très portée vers la prostitution, etc. Et donc, très hypocrite. Donc, des paradoxes comme ça, mais qui ont nourri leur création artistique et deux artistes aussi qui développent un style qui leur est vraiment propre, qui ne ressemble à rien d'autre de ce qu'il y avait à l'époque. C'est vrai que Egon Schiele, dans un premier temps, s'inspire du Jugendstil et de Klimt, qu'il admire, mais ensuite il va s'en défaire très rapidement et même rentrer déjà dans un expressionnisme en fait très très fort. Donc,
l'expo le montre bien d'ailleurs.
Voilà.
Qu'il y a ces deux côtés, côté ornemental et expressionniste.
Et les deux expositions sont pensées comme des rétrospectives, donc ça nous permet effectivement de voir l'évolution de leurs œuvres. Pour Schiele, c'est vraiment des dessins. C'est sur des dessins que ça a été centré. On a très peu de peintures et pas de ces très grands formats les plus connus. Mais les dessins ont une force absolument incroyable. Hein. Et pour Basquiat, c'est aussi chronologique, mais ça, vous verrez aussi que c'est aussi par thématique et avec des symboles et des choses qu'on retrouve en fait pendant toute sa carrière. Hein. Bah, c'est 10 ans pour tous les deux. Ce sont 10 ans de toute façon de création, donc c'est très rapide. Et en même temps, du coup, très compliqué pour les historiens d'en faire une analyse. On ne fait pas une analyse sur 10 ans d'œuvre où des artistes commencent à peine vraiment à trouver leur propre style, leur propre voix. Et voilà.
Mais c'est vrai que du coup, même si en effet, enfin, il n'y a pas vraiment de... Le but n'est pas non plus de faire une comparaison entre les deux, mais on se pose quand même la question dans l'exposition, qu'est-ce qui relie les deux artistes? Est-ce que il y a ce côté en effet qu'ils ont vécu la même période de temps, ils sont morts au même âge? Mais après, on se dit parfois, oui, c'est quand même deux univers très différents, donc on se pose quand même la question tout du long. Mais j'ai lu un article, notamment dans Le Monde, qui disait que... c'est tout à fait pertinent de les présenter ensemble. Je trouve que par rapport à d'autres expositions comme cet été Murakami, par exemple, Murakami n'était pas du tout présenté en même temps que l'exposition des œuvres de la Fondation. Du coup, je me demandais si là, le lien était voulu ou pas. Donc, il est à la fois voulu assumer, mais...
Alors, il y a un lien qui est assumé et qui est effectivement pertinent dans certains sens. Maintenant, surtout, il ne faut pas essayer de voir une filiation de Schiele à Basquiat ou quoi. Voilà, ça n'est pas du tout dans cet ordre d'idées-là. Mais il y a effectivement une certaine quand même, en tout cas un intérêt réel à pouvoir voir et l'un et l'autre au sein d'une même visite.
D'accord. Marie, alors, toi, t'en as pensé quoi de l'expo généralement
Ce que j'en ai pensé, au début, j'avais fait un peu le parallèle malgré moi en regardant les dates entre Schiele et Basquiat. Après, je trouvais que c'était assez pertinent quand même de les mettre en même temps. Ça pouvait se lire successivement, en fait, de passer de Schiele à Basquiat, parce qu'ils ont tous les deux beaucoup d'énergie. Ils sont très prolifiques et très expressifs dans leur usage de la couleur, des lignes.
Ça, c'est sûr.
Ouais. Donc, voilà. J'ai trouvé ça... Oui,
Galadriel.
Oui, non, je disais effectivement, ils avaient une pratique notamment du dessin, et c'est ce qu'on voit assez bien dans ces deux expressions, qui étaient quotidiennes, qui sans arrêt, enfin, voilà, c'était vraiment deux créatifs. Ils avaient besoin de ça dans leur vie, pour vivre.
Alors, sur le côté, du coup, sur la forme, moi, j'ai été un peu... Donc, sur le fond, moi, c'est difficile de toute façon de critiquer le fond des expositions de la Fondation Louis Vuitton parce que c'est des œuvres de qualité, c'est vraiment, bon, c'est puissant, c'est en général des expositions vraiment de qualité. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on parle beaucoup de ces deux expositions depuis la rentrée. Par contre, sur la forme, moi je remarque, j'étais un peu déçue du manque de contexte. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je veux bien que les œuvres parlent d'elles-mêmes, hein, on est d'accord que les toiles sont incroyables. Il faut quand même un minimum de contexte biographique, et par exemple pour Egon Schiele, j'ai appris sur un cartel qu'il avait une relation intense avec sa mère, et que du coup, ça pouvait aussi transparaître dans ses œuvres, dans sa personnalité un peu torturée. Alors, moi, je me dis, il faut peut-être passer à travers... Peut-être que c'est voulu qu'il n'y ait pas beaucoup d'explications, qu'il n'y ait pas beaucoup de contexte, et qu'il faut passer par l'audioguide ou par les médiateurs, parce que la Fondation passe beaucoup par ça aussi. Mais moi, ça m'a vraiment manqué. Et j'ai... Alors, ils ont beaucoup axé le discours sur les commissaires, sur la technique pour Egon Schiele et pour Basquiat aussi. Mais par exemple, pour Basquiat, moi, je suis désolée, tous ces symboles qu'il y a dans ces tableaux, la plupart, je ne les comprenais pas. Et je les ai compris en tombant sur un médiateur qui expliquait vraiment la couronne,
tu lui as pas fait mal,
les dents,
j'espère.
Etc. Mais du coup, c'est compliqué, parce que je trouve que le contexte pour Basquiat est crucial, cette période des années 80, avec l'omniprésence des excès, des drogues, etc. Tous les symboles qu'il place dans ses œuvres hyper engagées. Et moi, ça m'a vraiment manqué. Certaines œuvres de Basquiat ont pris sens, voilà, seulement finalement quand j'ai croisé un médiateur qui expliquait. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ?
Je suis un peu mitigé. On a un certain contexte, on a, si on lit les cartels, on arrive à comprendre l'œuvre, à la lire. Après, moi, j'aime quand même appréhender une œuvre sans nécessairement avoir son contexte socio-historique, sans nécessairement avoir les clés tout de suite. Vraiment la voir de manière brute, pour vraiment l'appréhender dans sa manière la plus originale. Après, par contre, j'aime bien m'appuyer sur d'autres éléments pour pouvoir apprendre. Et c'est vrai que sur ces expositions-là, on nous dit certaines choses et au final, on creuse pas assez par rapport... Moi, je pense à Schiele, ses relations avec sa famille, ses relations amoureuses et qu'on voit, qu'on ressent à travers sa peinture et au final, qui n'est pas tant développée. Donc, on ressort un peu de cette exposition-là avec, un petit goût de non-dit.
Alors, je pense que d'une part, il y a quand même beaucoup d'informations qui sont données, mais sur divers supports. Les textes de salle, c'est vrai qu'ils ne sont pas très, très grands. Ils ont été plus grands pour deux expositions. Il y a certains cartels qui sont développés. Il y a toujours aussi une volonté assez esthétique. Bon, c'est quand même, en tout cas pour la partie sur Basquiat, on reste sur le modèle du White Cube. Donc il faut les œuvres, voilà, doivent
être montrées dans leur puissance. Mais du coup, sans contexte biographique, je veux bien qu'il n'y en ait pas trop non plus, mais moi, ça m'a un peu manqué.
Après, il y a le livret de la visite. Je ne sais pas si vous l'aviez pris aussi.
Si, mais pour moi, c'était à peu près pareil que ce qui était écrit dans les salles.
Et puis, c'est vrai que sinon, il y a quand même plus d'informations dans l'application de la Fondation, qui est l'audio guide, en fait, et que chacun peut télécharger sur son téléphone. Et puis, il y a les médiateurs. Je pense qu'il y a cette volonté aussi de ne pas forcément trop en mettre pour qu'on se tourne vers les médiateurs qui sont présents à chaque étage et en permanence. Et c'est une offre qui est assez unique aussi à Paris d'avoir ce rapport humain. Donc,
mais c'est vrai que c'est une offre qui est encore pas naturelle, j'ai l'impression, pour les visiteurs. Ils n'osent pas trop aller voir les médiateurs.
À la Fondation, maintenant, on commence à avoir bien des habitués qui savent qu'on est là et qui nous attendent. Maintenant, c'est vrai que le nouveau public, comme là, déjà, on a pu remarquer, ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine que l'exposition est ouverte. Il y a des gens qui sont encore jamais venus et qui découvrent ça. Après, c'est vrai que quand les habitués, maintenant, ils savent, ils savent nous trouver.
Et toi, du coup, Marie, est-ce que ça t'a manqué parfois Est-ce que tu as utilisé un audio guide? Est-ce que tu as rencontré des médiateurs? Ou comment tu as vécu la visite?
En fait, j'y suis allée le jour de l'inauguration. Donc, il y avait beaucoup de monde. Donc, je n'ai pas pu parler aux médiateurs, malheureusement. Mais ça ne m'a pas trop manqué qu'il n'y ait pas beaucoup de contexte ou d'éléments un peu extérieurs, en fait. Parce que du coup, ça invitait vraiment à l'introspection devant les toiles. Ou alors à écouter un petit peu ce que les gens disaient. C'était assez drôle d'ailleurs, non, moi ça m'a pas manqué. J'ai l'impression qu'ils avaient beaucoup simplifié pour bien expliquer en fait dans les salles. Et on avait juste les 3-4 éléments qui servaient en fait à comprendre rapidement si on connaissait pas Basquiat comme moi. Juste ce qui était exposé. Après,
ouais, parce que c'est vrai que les toiles de Basquiat de toute façon sont tellement complexes. Il y a tellement de thématiques abordées, de sous-éléments, enfin bref.
Oui, c'est
et même, il mettait aussi des choses sur les toiles qui n'avaient pas forcément de rapport avec le thème, juste parce qu'il les entendait à ce moment-là à la radio. Donc voilà, vraiment plonger à fond dans une toile de Basquiat, ça peut pas être fait grâce à un cartel.
Moi, ça m'a frustrée. J'avoue que c'était tellement dense, l'expo de Basquiat, qu'à la fin, c'était vraiment dur. Et voilà, moi j'aurais eu... Mais je pense que c'est... Du coup, je vois que c'est ça dépend vraiment du visiteur, de ce qu'il a besoin aussi.
Oui,
c'est vrai que pour Basquiat, c'est compliqué, parce qu'en effet, il y a plein de symboles. Alors, si à chaque cartel, on met tous les trucs, c'est compliqué. Alors, je sais pas comment faire plus... Bon, voilà, mais moi, ça m'a un peu... Bon, alors, on commence notre tour de l'exposition. On rentre dans le vif du sujet. Alors, du coup, c'est moi qui commence par Egon Schiele. Donc, 100 œuvres au sous-sol, dont pas mal de dessins. L'exposition met surtout en valeur sa technique, donc je vais m'y attarder. Hein. Il expérimente beaucoup. Alors, dans la première salle, on découvre d'abord ses influences, t'en parlais, Galadriel, l'œuvre de Gustav Klimt notamment. Son mentor qu'il rencontre en 1907, donc Gustav Klimt qui est d'ailleurs plus connu hein, que Egon Schiele, donc son mentor qu'il rencontre en 1907, juste après être entré à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, et on le voit dès la première salle avec l'œuvre d'Anae qui ressemble énormément à celle de Klimt, je ne sais pas si ça vous l'a fait aussi, d'ailleurs je crois que Klimt a fait aussi une Danae.
Klimt a fait une Danae, c'est une citation directe, la Danae, et prend la même forme un peu comme ça ovoïde.
Simplement, c'est ça un peu, ouais.
Ah oui, c'est vrai, on peut dire ça, simplement que chez Klimt elle est retournée, elle est sur le dos, et elle a les jambes lassivement écartée pour recevoir la pluie d'or de Zeus métamorphosé, ce qui n'est pas le cas chez Schiele du coup.
Voilà, donc vous verrez cette magnifique Danae qui est aussi belle que celle de Klimt, vraiment très, très belle. On y voit donc une femme recroquevillée, comme on vient de le dire, en position fœtale sur un fond ornemental doré et noir. On y voit là les principes de la sécession viennoise, des motifs posés en aplat sans perspective, sur un fond décoratif doré ou à motifs floraux. Hein, c'est toujours aussi beau. Je dois dire que moi, je me suis vraiment régalée dans les salles de Schiele, plus que dans Basquiat, j'avoue, mais ça, c'est une question de goût. Puis donc, on voit l'évolution de son style dans lequel il arrive. Alors, c'est ça qui est vraiment bien fait aussi dans l'exposition, en ce qui concerne Schiele, c'est qu'on arrive à voir comment il allie l'aspect ornemental de sa ligne héritée de l'art nouveau avec la fougue de l'expressionnisme, et vite on rentre dans ses portraits un peu décharnés, ses corps qui se tordent de plus en plus. Son utilisation de la couleur également est intéressante, et l'exposition met bien ça en valeur, puisque donc il va souligner très rapidement les parties génitales et les formes de rouge comme les seins, le pubis ou le phallus. Et puis progressivement aussi, on voit que dans les dernières salles, l'homme s'apaise, ses dessins se font moins torturés. Et donc avant, on voit aussi qu'il avait été arrêté pour certaines de ses œuvres, hein, jugées immorales. Il a fait 24 jours de prison. Il avait aussi été accusé à tort de détournement de mineurs. Et à la fin de sa vie, avant de contracter la grippe espagnole, donc, il réalise une superbe série de portraits de femmes, notamment de la sienne Edith, mais aussi de son ancienne amante à la chevelure rousse Wally. Donc c'est une très belle première partie. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette série-là. Je parle dans la dernière salle, cette série de portraits de femmes.
Oui, ils sont très forts. Et alors, en fait, on voit deux séries différentes de portraits de femmes dans la dernière salle. Il y en a une où on, sur le même mur où on voit sa femme Edith, où on sent toute la puissance sculpturale du dessin de Schiele qui a gagné comme ça en puissance, je dirais à partir de 1913 à peu près. Et puis il y a un autre mur où là on retrouve des femmes, mais cette fois-ci c'est les femmes poupées de chiffon qui sont là pour être l'objet de la sexualité des hommes. Et ça c'est un des renversements les majeurs en fait que Schiele a fait après son séjour en prison, puisque ce qui gênait cette société très hypocrite, c'était de voir des femmes maîtresses de leur désir et de leur sexualité. Des femmes, voilà, incarnées. Ensuite, il a changé. Toujours des femmes nues, mais des femmes soit dont on ne voit plus la tête, soit qui ont un visage de masque. Des poupées de chiffon qui sont simplement l'objet du désir des hommes. Et ça, c'était OK. Voilà.
Et alors, est-ce qu'il y a quand même un tableau qui m'a un peu perturbée, ce tableau un peu mythologique, juste dans la dernière salle, avec un berger, je ne sais plus quelle scène il représente, très très classique, qui ressemble pas du tout à ce qu'il fait.
Oui, c'était pour
ça dit quelque chose.
C'était pour son général quoi, oui, dans l'armée ou quelque chose comme ça. Ouais.
Bon, bah voilà,
oui, donc en fait, il va faire beaucoup de commandes à la fin de sa vie. Il retourne à Vienne en 17 et puis en 1918, il a énormément de succès. Après la mort de Klimt, il a beaucoup de commandes, etc. Et tu disais aussi qu'on voit qu'il va s'apaiser. Et c'est vrai, en fait, il se marie, il se calme dans sa sexualité, dans ses rapports avec les femmes et dans ce qu'il représente aussi. Et c'est très très visible effectivement dans la dernière partie.
Bon, on passe à Basquiat. Donc vous et Schiele, globalement, ça, c'est une belle découverte. C'est pour clore le chapitre Schiele. Marie, toi tu connaissais un peu
Ouais, mais je connaissais vraiment plus tous ces portraits de femmes justement qui sont toutes dénudées, etc. Donc c'était intéressant en fait de voir aussi, il a fait un tableau de la ville de sa mère à laquelle il était très attaché, je crois que ça s'appelle Krumau, mais je voudrais pas dire Krumau. De bêtises. Krumau, pardon.
Krumau. On voit un pont, c'est ça? Ouais. C'est le tableau avec un pont en bois?
C'est un autre.
Avec des toits?
Oui, oui, on d'accord. voit ça très légèrement, avec beaucoup de guillemets cubistes. Mm.
Avec très aplati, sans perspective.
Ouais, ouais, ouais.
D'accord.
Puis j'ai adoré ses premiers portraits aussi, le portrait du docteur X, je crois. Oui, celui-là, j'ai trouvé très, très réussi.
Et puis un qui est un de ses portraits aussi, qui est sur l'affiche de l'exposition, qui est un de ses autoportraits.
Ouais, c'est là aussi, hein, il s'est énormément pris pour modèle lui-même. Dès qu'il y a un nu masculin, c'est lui en fait qui se représente. Et ce qui est une dernière chose peut-être à noter, que ce soit et pour Schiele et pour Basquiat, c'est que tous les deux, ils étaient très jeunes. Et du coup, leur évolution de leur art, elle va avec l'évolution de eux-mêmes, en fait. Et c'est très marqué pour Schiele, qui d'abord, c'est un adolescent qui découvre la sexualité et qui va l'exposer comme ça de manière très crue, mais simplement, c'était un intérêt pour lui, presque médical, finalement, qu'il pouvait avoir. Et puis, il va grandir. Il va passer à l'âge adulte, en fait, tout simplement. C'est ce qui fait la particularité de l'œuvre de ces deux artistes.
C'était le mot de la fin sur Schiele.
Alors pour la suite, on part sur Basquiat et le début de sa vie avec toi, Boris. Et toi, ce qui t'a frappé, c'est la différence entre les petites salles d'Egon Schiele et l'ambiance dans les salles de Basquiat.
Exactement, on passe vraiment d'une salle à l'autre. Ce passage, moi, m'a marqué. La grandeur, justement, de la salle de Basquiat avec des éléments de la rue, on est tout de suite à l'extérieur. Donc c'est primordial dans l'œuvre de Basquiat. C'est vraiment qu'il puise son inspiration et sa force dans la rue. Et durant toute sa vie, ses toiles y font référence à ce paysage urbain, à sa vitalité, à ses combats et à ses revendications. Et tout de suite, moi, quand j'arrive dans cette salle-là, c'est ce que je ressens. Je ressens vraiment cette vitalité-là, ces revendications-là, et ça transpire dans cette salle-là. Ce qui est beau et fort dans son œuvre, et qu'on ressent d'ailleurs dès la première salle, ce que j'ai ressenti tout de suite en arrivant, c'est qu'il parvient à prendre un bout de la rue, à capter un fragment de son âme et à la transposer dans l'espace de la fondation. Cela, on le ressent tout de suite. On est face à ces premières toiles qui peuvent nous paraître originales, parfois même farfelues. Donc on peut faire face à des successions de représentations d'avions, de voitures, de trains. On est vraiment dans la ville, on est vraiment en elle, au milieu d'elle. Et par-dessus ça, il va chercher certains matériaux directement sur le trottoir. Et dessus, il va juxtaposer des noms, des toiles, des symboles. Il y a un véritable langage urbain qui se déploie devant nos yeux. Ces toiles contiennent une multitude d'informations. Et les thèmes de dénonciation sociale comme la discrimination raciale ou les droits civils des Afro-Américains sont centraux dans sa démarche. C'est parfois difficile de décoder toute la symbolique derrière ces toiles et c'est vrai qu'on en a parlé ensemble. Parfois on a certains éléments comme la couronne d'épines ou le halo qui entoure les visages. Ça nous renvoie facilement à l'idée de martyrs ou de personnes oppressées. Mais parfois on est face à d'autres formes ou de symboles qui sont eux plus complexes et nous laissent parfois dans le flou. On peut tout de même constater une référence constante à la musique, aux mots et aux collages. L'écriture et les images étaient très importantes pour Basquiat, et on voit souvent des images d'individus ou d'objets qui cohabitent avec des noms propres ou des lieux. Dans d'autres de ses œuvres, Basquiat révise certaines idées préconçues sur notre vision manichéenne du monde, en remettant en question les conventions et nos perceptions du bien et du mal. Certaines de ses peintures révèlent des conflits très profonds, alors que d'autres présentent des images d'amitié et de liens forts. En combinant ces éléments qui peuvent sembler opposés dans une même œuvre, Basquiat suggère que les forces opposées peuvent s'unir pour créer une unité.
Toi, tu as choisi, Marie, le milieu de sa vie, les trois pièces du niveau 1.
Oui, donc les pièces qui traitent en fait plutôt de thématiques de l'œuvre de Basquiat. Donc il y a la première pièce qui est très très intéressante, je trouve, sur les héros et les guerriers. Les personnages héroïsés, qui vont être des figures d'hommes tout seuls, noirs, donc ça va être des saints, des artistes, des chanteurs. Ils ont plein d'attributs, en fait. Ils ont des auréoles, des couronnes d'épines, des sceaux, des râteaux, des épées. À partir de 1982, en fait, ils commencent à représenter beaucoup plus toutes ces figures d'hommes seuls. C'est un peu un tournant parce que ça parle aussi de son engagement en fait pour la cause noire. Et c'est assez agressif, les tons de couleur. Notamment, il y a une œuvre qui s'appelle Offensive Orange, vraiment dans les oranges et les bleus, qui est assez saisissante dans cette salle-là. Après, on passe au récit, notamment celui qui s'appelle Slave Auction. En fait, il va plutôt raconter des choses, il va insérer des textes en fait, dans ses tableaux. Hein. C'est assez systématique, mais c'est très engagé finalement comme salle, parce qu'il y a beaucoup de choses sur l'esclavage, les ventes, les voyages en fait, des esclaves dans les bateaux. Donc Slave Auction, il y a écrit par exemple plusieurs fois « valeur estimée » avec les dents en fait, des personnages. La musique, pardon,
si je puis me permettre, Slave Auction, c'est celle du Centre Pompidou.
Ah
c'est une des rares qui est au centre, dans une collection publique française.
Ah, génial.
Où on voit des bateaux négriers.
Oui, c'est
devant.
Ça, tout à fait. Ouais, ouais.
La salle de la musique, alors, il y a des disques avec des paroles, il y a des litanies, en fait, partout sur les toiles. Elles sont assez simples, assez épurées. Il y a beaucoup plus de mots, en fait, dans cette salle-là.
Et c'est ça, c'est peut-être la partie, moi j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, notamment tout ce qui concerne le jazz, les citations de chansons, etc. Ça fait partie de son processus de travail, mais je trouve que pour le visiteur, c'est esthétiquement, ça a moins
d'intérêt.
En fait,
je pense que c'est aussi parce que c'est un peu trop éloigné de notre sphère culturelle à nous, actuelle, en Europe. Mais je pense que dans les années 80, aux États-Unis, ils voyaient le titre, notamment, il y a une œuvre, tu vas peut-être en parler, Marie, mais qui représente un vinyle avec juste le titre d'une chanson dessus. Et je pense qu'on pouvait entendre dans notre tête cette chanson à l'époque, en fait, aussi.
Mmh. Ouais, j'avais pas pensé à ça, ouais. Ouais, Marie.
Du coup, en fait, il y a un tableau sur le zydeco. Alors, c'était un genre musical entre la musique créole et la musique acadienne qui a inspiré la musique country des États-Unis. Enfin, c'est une référence culturelle très ciblée, en fait. Il y a tout un studio d'enregistrement avec encore des figures couronnées, noires. Il y a aussi d'autres tableaux avec le saxophoniste de jazz Charlie Parker, que Basquiat adorait. Voilà pour la musique. Et puis, il y a encore une autre salle qui s'appelle Les Mots. C'est une salle qui est un peu similaire à la musique, j'ai trouvé, qui parle vraiment de l'importance du récit et des écritures un peu fragmentaires qu'il y a dans les tableaux de Basquiat. En fait, je pense que parfois, il a une phrase dans sa tête et puis il doit la transfigurer sur un tableau. Et moi, il y en a une que j'ai beaucoup aimée qui s'appelait Le prix du gasoil dans le Troisième Monde. En fait, il montre tout le cheminement d'une femme, en fait, qui va... Enfin, tout ce qui va lui arriver, c'est vraiment narratif comme toile.
Oui, c'est un grand tableau, c'est un triptyque, non ?
Ouais.
Avec trois parties qui racontent toute une histoire. J'avoue que moi, j'ai pas trop... J'ai un peu abandonné sur le récit, mais je vois...
Mais ce qu'on peut dire, juste pour l'importance des mots, c'est effectivement... À la fois les mots peuvent faire naître une image dans notre tête et l'image peut devenir un mot. À la fois ça peut nous aiguiller sur le sens de l'œuvre et en même temps ils sont aussi là pour créer du rythme. Et notamment c'est ce qu'on voit avec la musique. Quand il va répéter plusieurs fois des mots, ça va créer un certain rythme dans le tableau, que ce soit visuellement, mais aussi du coup on a cette musicalité des œuvres qui vont avec.
Ouais.
Et du coup, Galadriel, on finit avec toi.
Voilà, le niveau 2, rapidement, ce qui est intéressant de voir, c'est la collaboration entre Basquiat et Warhol, puisqu'ils ont peint ensemble pratiquement 200 œuvres. C'est une histoire assez folle, mais Basquiat admirait Warhol, qui était vraiment la figure de l'artiste new-yorkais. Et ils vont être présentés, je la fais courte, hein, mais ils vont être présentés, et puis ils vont créer ensemble. Donc là, on a une salle qui regroupe des toiles où on voit très bien le style de Warhol recouvert par des œuvres de Basquiat, par des peintures de Basquiat que Warhol va reprendre, etc., etc. Un peu une confrontation et une émulation entre les deux qui a été très riche. Malheureusement, ils ont fait une exposition pour montrer leurs œuvres et la critique a été très mal reçue, ce qui fait que Basquiat ne va plus parler à Warhol, et quand Warhol va mourir au début de l'année 87, Basquiat va être complètement dévasté. Et ce qui nous amène à la toute dernière salle de l'exposition où on voit cette œuvre absolument majestueuse. Cette salle, de toute façon, est assez impressionnante, avec une série d'œuvres sur les murs des côtés très, très, très chargées, notamment en termes de mots. Et puis, par contre, sur le mur du fond, une œuvre beaucoup plus silencieuse, Riding with Death.
C'est ma préférée. épurée, justement.
Beaucoup plus épurée, effectivement, qui représente un homme noir en train de chevaucher un squelette. Alors, attention. Effectivement, il est très tentant de voir ici une préfiguration de la mort de Basquiat, comme quoi il savait qu'il allait mourir. Alors non, il voulait pas mourir Basquiat. Il avait des projets, il avait pris des billets d'avion pour voyager. Il est allé à à Hawaï pour se désintoxiquer, etc. Simplement, cette œuvre, on peut peut-être la voir comme un point final à une certaine partie, un certain cycle de sa vie et de sa création. Bon, malheureusement, c'est vrai qu'après, il va rentrer à New York et faire une overdose qui va nous le faire partir trop tôt. Mais voilà.
Donc, les deux expositions, Egon Schiele, Jean-Michel Basquiat, sont à retrouver jusqu'en janvier à la Fondation Louis Vuitton. Je ne sais plus exactement la date.
14 janvier.
14 janvier, donc allez-y. Beaucoup de monde. Donc
Réservez vos places, venez en nocturne le vendredi soir. C'est les meilleurs conseils qu'on peut vous donner.
Parce que c'est vrai que pour Basquiat, c'est moins gênant, parce que les tableaux sont de grand format, les salles sont plus aérées. Pour Schiele...
Les salles sont beaucoup plus petites, les dessins sont plus petits, s'enchaînent comme ça sur les murs, ouais.
Il faut faire la queue, donc suivre la file des gens pour réussir à avoir les dessins. Donc plutôt y aller le soir, quoi, en gros. Bon. Eh bien, avant de faire un tour de table de nos coups de cœur, on finit avec ta chronique. Marie, de quoi tu vas nous parler pour ta première chronique ?
Alors, aujourd'hui, je voulais parler du Japon et du mouvement du japonisme pour deux raisons. En fait, c'est l'exposition sur Schiele et le tableau qui s'appelle « Autoportrait à lanterne chinoise » de 1912, qui est au Léopold Museum de Vienne, qui était à la fondation. Avec son fond blanc, ses lignes épurées et ses fleurs qui flottent, ça m'a vraiment fait penser au japonisme. Et c'est aussi parce que c'est l'année du Japon en France cette année. Il y aura plus de 20 expositions en art plastique autour de ce thème, mais même jusqu'en 2019. Alors, on fête les 150 ans du premier traité de commerce entre la France et le Japon et la restauration de Meiji au Japon en 1868. En fait, c'est le passage du Japon féodal au Japon industrialisé. La période du japonisme se situe durant le dernier quart du 19e siècle. C'est le collectionneur Philippe Burti qui a trouvé ce nom en 1872. Et ça commence en France d'abord. Il y a des vrais cercles de japonisants qui se constituent avec des artistes, des collectionneurs, des hommes d'affaires. Il y a aussi les expositions universelles qui vont faire beaucoup pour le japonisme, 1867 et 78 pour les principales. Il y a l'ouverture de beaucoup de boutiques d'objets japonais de cette époque-là. Et puis à la fin du 19e, en fait, ça devient un vrai phénomène européen, de l'impressionnisme à l'art nouveau jusqu'à l'art déco. Le japonisme va influencer les arts visuels, les arts appliqués, la littérature, la musique, l'architecture, l'art des jardins. Alors en ce qui concerne la peinture, c'est le contexte où les artistes européens, ils étaient vraiment à la recherche de nouvelles inspirations. Donc les estampes japonaises de Hokusai, de Hiroshige, c'est des petits formats collectionnés et importés en nombre qui sont reproduits, où il n'y a pas la perspective telle qu'on la connaît, qui s'autorise des grands aplats de couleurs, des objets superposés dans toutes les proportions. Il y a aussi dans ces estampes la recherche d'une forme de poésie, l'expression des sentiments, et ça va au-delà en fait du réalisme d'une peinture à l'huile flamande par exemple. On voit cette influence japonaise, pour citer quelques tableaux, dans le pont des Nymphéas de Monet, dans les lignes qui sont très très pures. Les arrière-plans de Cézanne avec des grandes fleurs qui sont peintes, les affiches avec les grands aplats de couleurs de Toulouse-Lautrec. Il y a le portrait du père Tanguy aussi de Van Gogh, où le fond entier il est constitué d'estampes japonaises. Et même jusqu'à Gustav Klimt, l'aîné de Egon Schiele, avec le jeu entre l'étoffe et le corps, avec l'arrière-plan qui est quasiment aussi important que l'étoffe. Et moi, je trouvais ça intéressant de se dire que c'était un art considéré au Japon, l'art de l'estampe, comme léger, populaire, de l'autre bout du monde, en fait, qui va contribuer au renouveau de l'art moderne européen au début du XXe siècle.
Merci, Marie.
Et en ce moment, au Petit Palais, il y a une exposition, non, sur Shōwaku,
c'est ça ? Jakuchu.
Ah mince, pardon, je me suis trompée.
Bon, et ben pour finir, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Dernier tour de table, celui des coups de cœur ce mois-ci. Gabriel.
Alors, l'exposition Picasso au musée d'Orsay, Picasso bleu et rose, une exposition extrêmement dense elle aussi puisqu'il y a à peu près 200 œuvres, mais en tout cas très intéressant, une période qu'on a moins l'habitude de voir en exposition en France et qui permet de comprendre les prémices, la genèse de cet artiste qui va devenir l'un des maîtres des avant-gardes et voir le développement vers le cubisme.
Super, et moi pour finir, donc je vous parle de l'exposition Le Crack des Chevaliers, chronique de Pierre, une toute petite exposition. C'est une salle Elle est présentée à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine jusqu'en janvier 2019, mais c'est une salle qui est quand même assez dense aussi. Donc le Krak, construite au milieu du XIe siècle à l'ouest de la Syrie actuelle, c'est une citadelle donc qui abritait une garnison de soldats kurdes, d'où son nom de Krak, soit en arabe forteresse des Kurdes. Et donc cette citadelle servait à contrôler les routes entre la plaine de Homs et la mer. Et donc on sort de cette exposition un peu rêveur, en emportant avec nous un peu de magie contenue dans ce monument de pierre. C'est la fin de ce numéro de Museum Side. Merci de nous avoir suivis. Merci à Paul Salmona de m'avoir fait visiter son musée. Merci à vous, Galadriel.
Merci.
Marie. Merci. Boris. On se retrouve dans un mois, le dimanche 11 novembre. En première partie, je vous ferai découvrir l'exposition Persona Grata, qui ouvre ses portes le 15 octobre au MacVal et au Musée de l'Histoire de l'Immigration. Et puis en deuxième partie, nous parlerons de l'exposition Géométrie latino-américaine du Mexique à la Terre de Feu à la Fondation Cartier. Restez sur Radio Campus Paris, la soirée continue.